Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Les églises d'Orient à la une de ce magazine, l'église catholique cherche les moyens de maintenir les chrétiens menacés sur leur terre d'origine. Jeudi, le pape François recevra une dizaine de patriarches et d'archevêques majeurs. Nous parlerons des personnes âgées malades ainsi que des trisomiques dans cette émission. Nous parlerons également de la bibliothèque de la communauté de Saint-Louis des Français à Rome, car avec quelques pièces anciennes d'une grande rareté, elle présente un intérêt remarquable tant pour les historiens que pour les bibliophiles. L'assemblée plénière de la Congrégation pour les Églises orientales s'est ouverte ce mardi au Vatican en présence notamment d'une dizaine de patriarches et d'archevêques majeurs. Ceux-ci auront une rencontre spéciale avec le pape François jeudi matin pour lui exposer la situation de leur communauté. Toutes les grandes figures des Églises catholiques orientales ont été invitées, du patriarche irakien des Chaldéens Louis Sacco à l'évêque chaldéen d'Alep Antoine Odo, du patriarche copte catholique Ibrahim Sidrak au patriarche latin de Jérusalem Fouad Toual. Cette assemblée centrée sur l'héritage du Concile Vatican II pour les églises orientales se tient alors que la guerre en Syrie, l'instabilité en Irak, l'incertitude en Égypte et en Terre Sainte et plus globalement la montée de l'islamisme ont accentué les souffrances des chrétiens et leur exode. Olivier Tosserie.
Les chrétiens du Moyen-Orient sont en danger d'extinction. Selon certaines ONG, leur exode prend des dimensions bibliques. En Irak, la communauté chrétienne comptait 1,2 million membres en 1990. Elle est tombée à 200 000 membres. En Syrie, on assiste à une véritable hémorragie. Ces jours derniers, l'archevêque catholique de Westminster a confirmé que le danger d'une extinction du christianisme au Moyen-Orient, son berceau historique, était probablement réel. Il a appelé l'Occident à cesser de soutenir les régimes intolérants. 80% des actes de discrimination religieuse commis dans le monde sont actuellement dirigés contre des chrétiens. Dans plusieurs pays d'Orient où ils sont minoritaires, comme en Inde par exemple, les chrétiens sont victimes de persécutions, parfois d'atrocités. De nombreux États appliquent des restrictions sévères ou très sévères aux activités chrétiennes, dans l'indifférence générale. Selon l'ONG protestante Portes Ouvertes, la majorité des pays recensés comme dangereux pour les chrétiens sont musulmans. Le christianisme est souvent perçu comme une menace à l'identité nationale, mais d'autres facteurs peuvent également jouer. En Colombie, par exemple, les cartels de la drogue, les paramilitaires et autres groupes disparates ont comme seul point commun la haine envers les prêtres et les travailleurs chrétiens qui se battent en faveur de la justice et des droits de l'homme. Les grands médias en parlent très peu.
J'ajoute que les églises catholiques orientales se distinguent en fonction de leurs rites et traditions liturgiques. Byzantins, chaldéens, maronites, arméniens, alexandrins. En plus de l'église latine, l'église catholique compte actuellement 22 églises appartenant à 5 traditions orientales. Leur mode de gouvernance, à savoir la synodalité, peut enrichir la réflexion de l'église latine sur sa propre gouvernance. Le pape François lui-même l'a reconnu. Et à propos de la situation en Syrie, je vous propose à présent d'écouter Mgr Jean Barre, l'archevêque catholique d'Alep.
La situation en Syrie est très difficile, et à Alep particulièrement, parce qu'Alep a été assiégée pendant plusieurs mois. Et il y a, depuis 2 mois, le siège a été beaucoup plus hermétique, c'est-à-dire que personne ne pouvait sortir ou rentrer, mais surtout, l'approvisionnement avait été coupé. Pendant 1 mois, nous avions été privés d'approvisionnement, aussi bien approvisionnement ordinaire venant par le commerce libre, ou les aides que les organisations internationales comme la Croix-Rouge n'arrivaient pas. Ce n'est qu'il y a une dizaine de jours que les routes ont été réouvertes et que de nouveau nous avons un approvisionnement. De plus, la situation a fait que les gens ne travaillent plus, ils sont au chômage, les usines ont été détruites, démolies, et les gens sont dans un grand besoin et dans une grande désolation. C'est pour ça que nous avons pensé que notre premier devoir actuellement était bien sûr de prier et d'encourager et de dire un discours d'espérance, mais surtout aussi de faire en sorte que cette souffrance de nos fidèles et des gens, des chrétiens, mais des autres aussi, soit allégée par une participation de notre part en mettant tout ce dont nous disposons à leur disposition.
Est-ce que vous pourriez justement détailler l'aide que vous apportez en tant qu'Église?
Nous avons mis beaucoup d'argent de la caisse de l'archevêché, de ce que nous avions comme économie, mais nous avons aussi recouru à des amis à l'étranger, là où des chrétiens sont sensibilisés, pour nous aider à relever ce défi et à aider ces chrétiens, ces gens, dans leurs besoins. Nous avons plusieurs programmes, un programme de nourriture et de provision que nous suivons et que nous exécutons depuis maintenant plus de 18 mois. Chaque mois, nous distribuons actuellement, nous, la communauté, notre église, distribue quelques 1400 paniers de provisions à 1400 familles. Nous avons un programme de subvention financière pour les jeunes familles qui n'ont pas de ressources. Nous leur donnons ce qui représente la moitié d'un salaire ordinaire par mois. Et nous avons un autre programme d'aide scolaire. Jusqu'à maintenant, nous avons donné quelques 500 bourses d'études pour les étudiants qui étudient dans les écoles catholiques que nous avons ouvert malgré tout pour ne pas priver les enfants de l'école. Et nous encourageons nos élèves à y aller.
Est-ce que les chrétiens ont peur?
Les gens ont confiance en nous, mais ils ont peur des bombes qui tombent sur eux. Maintenant que je vous parle, tout à l'heure, il y a une bombe qui est descendue à 100 mètres de chez nous, d'ici. Hier, un mortier est tombé dans l'archevêché même, et avant-hier, dans ma chambre, à coucher. Alors, vous comprenez, dans des circonstances pareilles, on ne peut pas demander l'impossible à nos fidèles, et nous nous rendons compte qu'il y a de quoi avoir peur. Mais notre résistance et notre permanence et présence au milieu d'eux les encouragent et ils se rendent compte que nous avons confiance dans la Providence et dans le Seigneur et que nous voyons l'avenir meilleur, un avenir promettant parce que ce sera un avenir sans fondamentalisme, un avenir où nous aurons un pays pluraliste, où tout le monde pourra vivre tranquillement, librement, avec ses pleins droits et ses devoirs. Nous espérons avoir un pays où tout le monde vit ensemble en frères, musulmans et chrétiens, côte à côte, au service de la communauté nationale et au service de leurs fils, leurs enfants et du pays. Espérons que ce jour viendra où tout le monde se sentira chez lui dans le pays et où tout le monde aura le droit de parler et tout le monde aura le devoir de servir fidèlement, mais aussi avec générosité, le pays.
C'était l'archevêque catholique d'Alep, Mgr Jean Barre. Alors que l'année de la foi touche à sa fin, le Vatican se prépare également à accueillir ces jours prochains, du 21 au 23 novembre, une conférence internationale sur les personnes âgées malades. Cette conférence est organisée par le Conseil pontifical pour la pastorale de la santé. Elle se penchera en particulier sur la contribution que l'Église peut apporter aux soins des personnes atteintes de pathologies neurovégétatives. Cette conférence a été présentée aux journalistes ce mardi matin. Le secrétaire du dicastère pour la santé, Mgr Jean-Marie Mumpandawatu, souligne au micro de Xavier Sartre que nous devons changer notre regard sur les personnes âgées et sur les défis que les maladies neurodégénératives impliquent pour la pastorale de la santé.
À la fin de tout, quand on est jeune, on prend de l'âge, on devient adulte. Et après, grâce à Dieu, on peut vivre un peu plus longuement. Et alors, dans toutes ces étapes de la vie, nous sommes la même personne avec la même dignité. Donc ce n'est pas l'âge qui va changer cette dignité de la personne. Avec, disons, tous ces changements que nous connaissons depuis un certain nombre de décennies, et l'Église interpelle notre société pour dire qu'il faut un regard nouveau qui va à contre-courant parce que les personnes âgées sont une grande ressource pour non seulement l'Église, mais pour la société entière, parce que ces personnes sont dépositaires de grande sagesse, d'une vie riche. Il faut cesser de considérer les personnes par rapport à leur âge, parce qu'ils sont personnes, ils ont une dignité.
Alors, les personnes âgées qui sont malades de ces maladies neurodégénératives, évidemment, souffrent d'un mal bien spécifique qui a des conséquences sur leur entourage, sur leur famille, sur l'ensemble de la société. Comment, dans l'optique de la pastorale de la santé, l'Église peut évoluer, peut changer pour accompagner aussi bien les malades que leurs proches?
Il faut certainement entrer dans le nouveau paradigme. Nous avons des centres de santé un peu partout, nous avons des hôpitaux, nous avons plus de 120 000 structures de santé. Mais maintenant, il faut une pastorale qui va vers le malade et à la maison, dans la famille, où il se trouve mieux. Et c'est là, il faut s'adapter à sa condition. Il faut cesser de rester, attendre, parce que ces malades, nous ne les aurons pas dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Donc il faut une pastorale sur le territoire, où vraiment, je dirais, les communautés chrétiennes s'implique, commençant par les curés, les paroissiens, parce que malheureusement aujourd'hui, les gens pensent qu'ils sont malades et qu'il faut les amener à l'hôpital. Mais ce n'est plus ça, le paradigme a changé. Donc il faut aller vers eux. Et ça va aussi demander de la part des professionnels de la santé une attitude différente, parce que maintenant, un seul spécialiste ne peut pas affronter le problème d'une personne âgée qui souffre d'une maladie neurodégénérative. Donc il faut aussi cette complexité de spécialisation et donc savoir dialoguer. Non, entre les personnes, les gens qui accompagnent le malade. Même si on est plusieurs spécialistes, quand même il y a l'unité dans cette personne qui est corps et âme, qui est psychologique, qui est aussi un élément social. Donc il faut prendre en charge tous ces éléments-là.
C'était Mgr Jean-Marie Mpendawatu, secrétaire du Conseil pontifical pour la pastorale de la santé. Le prix Sisley Jérôme Lejeune récompense des chercheurs confirmés et des jeunes scientifiques qui ont réalisé des recherches dans le domaine des maladies génétiques de l'intelligence. Et bien ce prix a été attribué cette année au docteur Yann Hérault, un biologiste français qui se consacre depuis une douzaine d'années aux mécanismes qui sont perturbés dans la trisomie 21, et à un Américain, Lynn Nadel, qui a travaillé sur l'hippocampe qui joue un rôle important dans cette maladie génétique. Le but visé est de développer une stratégie de traitement et d'améliorer les outils d'études de la maladie. Au cours de la cérémonie de remise du prix, les lauréats ont fait état de perspectives très encourageantes. Le 17 juillet dernier, des chercheurs aux États-Unis ont réussi à inactiver le chromosome surnuméraire, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle approche thérapeutique, la thérapie chromosomique. En janvier 2014, la Fondation Jérôme Lejeune lancera un appel à projet sur le lien existant, semble-t-il, entre trisomie 21 et maladie d'Alzheimer, une nouvelle piste récemment révélée. Dimanche dernier déjà, une journée d'appel à l'aide pour le traitement de la trisomie 21 était organisée en France. En l'absence de financement public, les besoins deviennent pressants. En France, la santé publique rembourse le dépistage prénatal de la trisomie qui coûte 1 milliard d'euros par an, mais ne soutient pas la recherche thérapeutique. Celle-ci est assurée par le mécénat privé, elle est sous-financée et mal considérée. Un paradoxe dramatique, 96% des trisomiques sont éliminés avant leur naissance, alors que la recherche thérapeutique marque des avancées significatives. Rome, la bibliothèque de la communauté de Saint-Louis des Français vient d'être restaurée. Elle était à l'abandon depuis des décennies et Marie-Élisabeth Boutroux, membre de l'Institut de recherche en histoire des textes, lui a redonné toute sa splendeur. Elle a bénévolement apporté une contribution majeure à l'inventaire, au classement et à la remise en ordre de cette bibliothèque qui recèle des livres rares et précieux. Elle est riche de 32 000 ouvrages, dont 18 000 anciens, et composée de plusieurs fonds, notamment celui des oratoriens de Saint-Louis et celui des minimes de la Trinité des Monts. Par sa variété autant que par sa cohérence, la bibliothèque de Saint-Louis constitue un témoignage particulièrement intéressant de la présence française dans la Rome pontificale au cours des siècles. Marie-Élisabeth Boutroux nous en parle.
Cette bibliothèque est le résultat de l'arrivée de plusieurs fonds de bibliothèques romaines, françaises, en particulier donc le fonds de la Trinité des Monts. Elle héberge aussi des livres qui étaient ceux des oratoriens installés à Saint-Louis, donc au XVIIe et XVIIIe siècle. Le fonds ancien donc compte environ 18 000 volumes et on trouve également une partie de la bibliothèque des oeuvres pontificaux, de ce qu'on appelait le Cercle Saint-Michel. Et c'est une bibliothèque avec beaucoup d'histoire, de philosophie, de biographie, pas du tout une bibliothèque légère ou récréative, c'est une bibliothèque pour penser et pour réfléchir.
C'est un fonds original par rapport aux autres fonds que vous avez pu côtoyer?
C'est un fonds qui a une spécificité historique forte parce qu'il témoigne de la présence française à Rome, en particulier au XVIIe et XVIIIe siècle. Les livres imprimés sont ceux qu'on s'attend à trouver dans une bibliothèque ecclésiastique de cette époque, même en tenant compte de la diversité des fonds. Et c'est une bibliothèque qui a été rassemblée pour être une bibliothèque d'usage pour les gens qui vivaient ici, qui représentaient le roi, qui étaient en rapport avec le Saint-Siège et qui travaillaient éventuellement également sur des questions qui n'étaient pas directement diplomatiques, mais philologiques, historiques, linguistiques, littéraires.
C'est un fonds qui dispose de curiosités, de livres particuliers.
On dispose de choses assez anciennes. Un très beau manuscrit qui relate les événements touchant la Trinité des Monts au milieu du XVIIe siècle, dans la première moitié et au milieu du XVIIe siècle, qui semble être un manuscrit complémentaire de celui couramment allégué par les historiens pour parler de la chronique de la Trinité des Monts. On trouve également des incunables, une vingtaine d'incunables, 250 manuscrits comportant des traités de philosophie, de théologie, des correspondances, des pièces historiques liées au quiétisme, aux controverses religieuses du XVIIe siècle, à la bulle Unigenitus, bien entendu, et puis des choses plus littéraires également, des copies tardives de Jean Chrysostome, des copies de romans grecs de Daphnis et Chloé, voilà, ce genre de livres, manuscrits ou imprimés, qui témoignent de gens de très haute culture.
Dans quel état avez-vous trouvé le fonds ?
Quand je suis rentrée dans le fonds en 1996 pour la première fois, il y avait des livres partout. Ils avaient besoin d'être rangés, ils avaient besoin d'être aérés parce qu'ils manquaient de place, ils étaient très à l'étroit sur les étagères. Il y avait besoin d'un gros toilettage du catalogue et puis surtout, il y avait besoin de les mettre dans des meubles et dans un ensemble plus favorable parce que les bibliothèques n'avaient pas de fond, donc le mur pouvait faire du salpêtre, de la poussière qui tombait juste derrière les ouvrages. Donc il a fallu beaucoup de temps pour arriver à avoir un vrai projet ambitieux et encore plus de temps pour trouver évidemment les fonds nécessaires à la réalisation de cette restauration.
C'est un fonds dans lequel on a fait des découvertes, dans lequel on pourra faire des découvertes ?
C'est un fonds dans lequel on pourra faire des découvertes, à la fois pour des textes qu'on croit perdus et qui sont là. Je pense aux manuscrits d'un janséniste du XVIIe siècle qui s'appelle François Diroy. Et voilà, les manuscrits sont là, je le dis pour les collègues qui écouteraient. On pourra trouver aussi des pièces qui éclaireront des aspects de controverses religieuses. Et de toute façon, pour lui rendre toute sa spécificité, tout son intérêt, il faudra vraiment que les chercheurs se penchent sur la collection elle-même, sur sa constitution et sur le fonds manuscrit en particulier.
C'est un fonds qui a été sauvé de l'oubli, sauvé de la dégradation.
J'espère que c'est sauvé de la dégradation. Maintenant, il est dans des conditions de conservation qui sont conformes aux normes internationales et on peut être tranquille, il ne leur arrivera plus rien, plus d'eau, plus de fuite, plus de problèmes d'humidité. Oui, je crois qu'il est non seulement sauvé de la dégradation, mais maintenant en état d'être utilisé. Et une bibliothèque, ça doit être utilisé pour être vivant.
Marie-Elisabeth Boutroux, membre de l'Institut de recherche en histoire des textes, interrogée par Olivier Tosserie. Le président français François Hollande est attendu ce mercredi 20 novembre à Rome à l'occasion du 31e sommet franco-italien. Un rendez-vous fondamental qui déterminera les nouvelles perspectives du partenariat économique entre la France et l'Italie. Le chef de l'État français ne passera pas par le Vatican où il ne s'est jamais rendu depuis son élection. Lorsqu'il était venu à Rome pour rencontrer Mario Monti et tenter de sauver l'euro, il y a quelques mois, on avait cru que François Hollande rendrait une visite privée à Benoît XVI, mais cette visite n'a pas eu lieu. Contrairement à son prédécesseur Nicolas Sarkozy, qui avait profité de l'occasion pour développer sa conception de la laïcité positive, le président Hollande n'est pas venu non plus prendre le titre de chanoine du Latran qui revient au chef de l'État français. Ni Georges Pompidou, ni François Mitterrand d'ailleurs, n'avaient fait ce déplacement. Cependant, François Mitterrand avait fait la connaissance de Jean-Paul II dès 1982 dans la bibliothèque privée du Saint-Père. Une visite de François Hollande en 2014 au Vatican, elle n'est pas impossible, même si les manifs pour tous ont jeté un froid certain, ainsi que certaines boutades du chef de l'État lors de la renonciation de Benoît XVI et du conclave qui a suivi. Ces derniers mois, les catholiques français ont clairement exprimé leur opposition à la loi Taubira et restent mobilisés sur plusieurs dossiers, comme l'euthanasie et la bioéthique. En attendant, le journaliste Nicolas Hulot effectuera une visite de travail au Vatican les 21 et 22 novembre. L'envoyé spécial du président de la République française, en charge de la protection de la planète, rencontrera de hauts responsables de la secrétaire d'État du Vatican, du Conseil pontifical Justice et Paix et de Caritas Internationalis. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie, mais je vous invite à nous retrouver également sur internet www.radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français.